Donc dans la communication que je vous présentais, je vais m'interroger sur le processus de recrutement des sujets dans les essais cliniques en cancérologie. Donc sur les différentes manières dont on peut interpréter ce processus qui conduit des individus malades de cancer à participer à des protocoles expérimentaux dans le cadre donc du traitement de leur maladie, et voir un peu quelles sont les métaphores ou les concepts qui sont susceptibles d'éclairer ce processus-là. Je m'appuierai sur des données ethnographiques issues d'un travail de terrain que j'ai effectué dans le cadre de ma recherche doctorale en cours entre septembre 2008 et octobre 2010 dans trois établissements, enfin deux plus particulièrement, deux services de recherche clinique en cancérologie dans des établissements de soins de la région parisienne, donc un centre hospitalier universitaire, donc un hôpital généraliste académique, et un centre de lutte contre le cancer, donc qui n'accueillait que des malades du cancer. Sur le premier terrain, je suis resté 14 mois. J'ai effectué donc des observations un peu sur l'ensemble du processus d'essai clinique, donc depuis les consultations, les réunions de concertation entre les médecins, donc les staffs, les visites de sélection, les visites de screening, les séances de traitement, les évaluations, les bilans, etc. J'ai essayé de suivre un peu tout le parcours des patients dans le cadre d'essais cliniques, et puis j'ai mené également des entretiens avec des patients, bien sûr, et également avec des investigateurs au sens large, donc les médecins investigateurs, les infirmières de recherche clinique, les techniciens de recherche clinique. Donc 14 mois sur le premier terrain dans le centre hospitalier universitaire, et un terrain comparatif de 4 mois dans le centre anticancéreux en région parisienne. J'ai essayé aussi de contextualiser un peu mes données par une recherche socio-historique sur l'histoire du recrutement des patients dans l'expérimentation. Et donc je m'appuierai un petit peu dans cette présentation sur quelques éléments historiques pour mettre en perspective les pratiques actuelles. Je vais aborder trois manières d'interpréter le processus de recrutement. D'abord, je m'intéressais à une métaphore du recrutement comme chasse au corps, chasse des corps, chasse au corps expérimentalisable. Ensuite, je m'intéresserai au recrutement comme gouvernement des malades, comme processus de gouvernement des malades. Et enfin, à ce recrutement comme étant un processus de subjectivation ou nécessitant un processus de subjectivation de la part des patients. Et donc le point central de mon exposé, ce sera de montrer que pour comprendre le processus de recrutement des malades dans la recherche en cancérologie, il faut se situer à l'articulation entre des processus de gouvernement et des processus de subjectivation. Donc tout d'abord, rapidement quelques éléments de contexte sur l'expérimentation clinique en cancérologie, pour dire qu'il y a en cancérologie ou en oncologie médicale une culture de l'expérimentation. Donc c'est une spécialité médicale, l'oncologie, qui pratique les essais cliniques à grande échelle. Peter Keating et Alberto Cambrosio ont bien montré que même en tant que sous-spécialité médicale, l'oncologie médicale est issue de la pratique des essais cliniques de chimiothérapie. Donc énormément d'essais cliniques sont menés en cancérologie, il y a énormément de produits différents à tester. Aujourd'hui, la biochimie des tumeurs fait qu'on a une multiplication aussi de sous-entités de cancer, donc de sous-entités de tumeurs, et tout ça, ça donne lieu à une multiplication d'essais cliniques. Keating et Cambrosio parlent même de prolifération d'essais cliniques à très large échelle, notamment des essais cliniques de phase 3 qui doivent inclure des milliers de patients à l'échelle mondiale, hein, dans des essais multicentriques. Donc tout ce contexte fait qu'il y a un besoin de corps expérimentalisables en cancérologie. Il y a une offre, pour parler un peu le langage économique, une offre de place dans les essais cliniques très importante, et il faut que la recherche puisse avancer, que davantage, toujours davantage de patients entrent dans ces essais. Donc sur le terrain, cette situation engendre une pression au recrutement. Donc les médecins sont incités à rechercher des patients. Alors il y a quand un centre d'essais cliniques ouvre un essai chez lui, c'est en général que il estime avoir un certain nombre de patients à inclure. Il y a un accord qui se passe entre le promoteur et l'investigateur sur un certain nombre de patients à inclure, et ensuite il faut que l'investigateur inclue ses patients. Donc concrètement, on va avoir dans les réunions, dans les staffs, une recherche, une attention portée sur la recherche de patients. Alors, cette recherche, elle est complexe, parce que, comme vous le savez bien, un essai clinique comporte des critères d'inclusion et des critères de non-inclusion pour les patients qui sont très stricts. Donc, ça va de l'âge à la pathologie, bien sûr, le stade de la maladie, le type de traitement reçu, certains paramètres médicaux comme la fonction rénale, la fonction hépatique, les seuils, certains seuils de composés sanguins, etc. Donc n'importe qui ne peut pas rentrer en réalité dans tous les essais cliniques, n'importe quel patient. Et il s'agit donc de bien cibler les patients qui vont être concernés, notamment pour les essais cliniques de phase 1, donc qui sont les premiers essais sur l'homme de molécules anticancéreuses, dans lesquels on teste non pas l'efficacité de ces molécules, mais simplement la tolérance et la toxicité des produits sur le corps des malades. Et ces essais sont faits sur des malades qui sont incurables, qui sont en situation d'échec thérapeutique, qui ont essayé déjà les traitements validés, standards, et qui néanmoins ne sont pas des malades mourants. Donc ils sont incurables, ils ont essayé beaucoup de traitements, mais en même temps ils doivent être en bon état général. Ils doivent avoir une espérance de vie au moins supérieure à 3 mois, etc. Et donc ce sont des patients qui sont, comme dirait Cambrosio et Keating, des patients, des ressources rares, donc scarce resources. Et donc il y a tout un dispositifs qui sont mis en place pour capter ces patients. Ces dispositifs, moi j'ai pu en observer concrètement certains. Parfois on a des médecins qui se font des listes de critères pour des critères des études. Parfois, il y a des dizaines d'études qui sont menées en même temps dans un centre. Donc, il faut avoir à l'esprit tous les critères d'inclusion des études. Donc, ils se font des listes de critères d'inclusion en consultation pour ne pas oublier, ne pas rater un patient incluable. Parfois, il y a également des techniciens de recherche qui sont chargés de screener les dossiers médicaux des patients, pour repérer ceux qui seraient incluables dans les essais de l'unité. Mais également, il y a une grande importance des réseaux de médecins. Donc les médecins participent à des réunions de concertation pluridisciplinaire où des dossiers de patients sont discutés par divers médecins. Et donc, à cette occasion, on peut repérer des patients incluables dans certains essais. Il y a des sessions d'information qui sont faites auprès de collègues ou dans d'autres hôpitaux pour informer sur les essais cliniques qui sont ouverts ici ou là, de sorte que par le jeu de certains adressages, eh bien on puisse, comme ils le disent dans leur langage, dégainer le plus rapidement possible et inclure donc rapidement des patients en fonction du nombre de patients qui sont attendus dans les essais, sachant qu'il y a une pression qui est mise par les sponsors, donc par les promoteurs, pour atteindre certains chiffres d'inclusion. Donc les pressions, c'est des coups de téléphone réguliers, c'est des mails pour dire alors vous en êtes, vous nous aviez dit que vous en aviez 15 et là vous êtes en retard sur le planning. Donc moi sur le terrain, l'observation de cette pression-là au recrutement m'a incité à aller voir du côté d'une métaphore bien connue qui est la métaphore donc, de la chasse au corps. Donc une métaphore de Body Hunters, donc qui est une métaphore d'abord d'origine journalistique, qui a été employée par Joe Stephens dans le Washington Post dans une série d'articles sur les essais cliniques au Nigeria. Essais cliniques d'antibiotiques, du Trovan, qui avait fait 5 morts parmi les enfants et qui avait été fait sans consentement, sans demander le consentement des parents et sans entièrement demander également les autorisations au gouvernement. C'est une métaphore qu'on retrouve aussi dans un ouvrage de Sonia Shah sur la délocalisation des essais cliniques dans le Sud. Donc on a besoin de recruter des patients, on va chercher dans les pays où on a des règlements moins stricts que dans les pays du Nord. Adriana Petrina, sans utiliser directement la métaphore, lui parle aussi de la Global Search of Human Subjects. Donc il y a une course à l'inclusion finit par passer un peu dans le langage académique. En France, on a un ouvrage d'un historien des sciences qui est Grégoire Chamaillou, qui utilise cette métaphore. Il dit ceci, il dit: l'expérimentation humaine suppose une sorte de chasse à l'homme, une sorte de chasse à l'homme mobilisant des technologies d'acquisition. Et lui, il montre comment au 18e, 19e siècle, l'exécution capitale, les contrats d'assistance, certaines formes de racialisation sont des techniques ou des technologies sociales destinées à avilir des corps pour les rendre disponibles à l'expérimentation. Est-ce que cette métaphore est pertinente pour décrire les pratiques de recrutement dans la en cancérologie aujourd'hui, dans la recherche clinique? Eh bien, je ne le pense pas. Je pense qu'il vaut mieux aller du côté du concept de gouvernement. Je vais vous dire pourquoi. Donc, notamment parce que l'image ou l'analogie avec la chasse suppose en fait que soient remplis au moins 3 critères, c'est-à-dire dans l'idée de chasse, il y a l'idée de poursuite, on poursuit, on traque un être vivant, il y a l'idée de capture, donc privation de liberté, et l'idée de violence mortelle éventuellement, hein, également. Alors la mort, la violence mortelle, évidemment, c'est pas la finalité de l'inclusion ou du recrutement, puisque au contraire, la mort d'un sujet de recherche dans un essai clinique, c'est plutôt quelque chose qu'on cherche à éviter, parce que sinon ça compromet la durée, enfin la vie du traitement. Peut-être la capture, donc la privation de liberté, peut-être est-elle un élément un peu plus pertinent de l'analogie. Et encore, aujourd'hui, donc la privation de liberté, ça pourrait être l'inclusion sous contrainte, le recrutement sous contrainte, par la force ou par la ruse ou par la violence symbolique, par le mensonge, par la manipulation, par l'omission d'informations. Mais aujourd'hui, on a des standards éthiques, des obligations légales de consentement éclairé. Donc en France, depuis 1988, concrètement, au niveau international, donc ça commence vraiment à s'installer dans les années 70, même si les choses sont beaucoup plus anciennes en réalité. Mais aujourd'hui, on a la nécessité pour les investigateurs d'informer et surtout de faire signer un consentement éclairé. Donc le postulat du recrutement aujourd'hui, c'est qu'on recrute non pas sous contrainte, mais des êtres libres. On recrute des êtres libres, des êtres volontaires. Et donc, finalement, pour éclairer le processus de recrutement, il faudrait penser plutôt une chasse ou une forme de poursuite qui porte sur un être libre, une manière que l'on a de faire en sorte que le sujet fasse lui-même ce que le chasseur veut. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il vaut mieux parler de gouvernement des malades, qui est une relation de pouvoir qui s'exerce en réalité sur une liberté. La conduite des conduites, le gouvernement, c'est bien ce que dit Foucault, c'est l'art de conduire des conduites, l'art de l'action sur des actions possibles, et non pas une relation de violence, qui serait une relation qui contraindrait les individus. Donc, pour gouverner les patients, je vais essayer d'aller vite, les médecins s'appuient en réalité sur leurs désirs et il sélectionne d'abord des patients qui sont demandeurs. Donc, à côté des critères formels d'inclusion, il y a ce critère-là qui est utilisé par les médecins, qui est de repérer les patients qui sont, comme ils le disent, demandeurs d'innovation, qui vont être volontaires en réalité déjà pour rentrer dans des essais cliniques, qui sont motivés. On cherche à identifier une motivation, donc j'ai des extraits, je ne vais pas vous lire maintenant, mais parce que donc, la motivation, c'est aussi la compliance, donc c'est des patients qui vont bien respecter les protocoles, qui vont produire donc des données fiables scientifiquement. Et donc cette motivation, elle va faire en sorte que les patients sont bien disposés vis-à-vis d'une certaine logique expérimentale qui, pour les investigateurs, consiste à dire que la recherche clinique est un soin et que donc il y a une finalité thérapeutique forte, même dans les essais cliniques de phase 1, où les bénéfices sont statistiquement réduits, eh bien, vont considérer que c'est quand même un soin médical. En même temps, on s'appuie sur ce désir, sur cette demande d'innovation, et en même temps, pour gouverner, en fait, pour amener les malades à rentrer dans l'essai, on va aussi euphémiser certaines dimensions, on va euphémiser, minimaliser la dimension expérimentale, et donc il va y avoir un processus de censure sur tout ce qui concerne la notion de cobaye, notamment, qui va être une notion proscrite, et notamment aussi, par exemple, le terme d'expérimentation. Chez certains médecins qui m'ont dit ça, on n'utilise pas le terme expérimentation parce que, justement, ça fait cobaye. Et donc, il va y avoir travail pour s'appuyer sur le désir d'innovation et, en même temps, un travail pour rassurer les peurs des malades d'être instrumentalisés et d'être traités comme des cobayes. Voilà pourquoi, donc, globalement, on peut parler de gouvernement. Mais les patients, je vais essayer d'aller très très rapidement là-dessus. Dans ce gouvernement, les patients sont-ils actifs ou sont-ils passifs? Sont-ils simplement gouvernés ou participent-ils, sous quelle forme, à leur gouvernement? Donc, je pense qu'en réalité, parler de processus de subjectivation, donc de travail sur soi qui est effectué par les malades pour devenir eux-mêmes, pour comme disait Foucault, pour instaurer un rapport particulier à certaines contraintes, un rapport particulier à l'essai, un rapport particulier à l'expérimentation, et donc pour se constituer librement comme sujet de recherche. Donc, simplement pour illustrer ce point, parce que j'ai pas le temps de tout dire, je vais prendre simplement le cas d'un malade, que j'ai rencontré, donc de 25 ans, manager dans une grande enseigne de meubles suédoise, qui est atteint d'un ostéosarcome et qui a donc eu beaucoup de traitements chirurgicaux. Je crois qu'il avait eu 6 ou 7 traitements de chimiothérapie de suite. Donc il était en réalité, à ce moment, quand je l'ai rencontré, il avait une maladie qui était incurable, qu'on ne pouvait pas totalement guérir. C'était quelqu'un qui était jeune, combatif, et donc on décide, les médecins lui proposent d'entrer dans un essai clinique. Et cet essai clinique, malheureusement, ne fonctionne pas, mais il est encore bien. Il est encore en bon état général, comme les médecins disent. Et donc, on lui propose un nouvel essai clinique. Et là, je vais simplement vous citer un extrait d'un échange qu'il a eu au moment de la visite pour rentrer. Avant de rentrer dans un essai clinique, il y a une visite donc de screening, où on va sélectionner les patients, voir s'ils répondent bien aux critères. Et voilà ce qu'il dit avec le médecin. Donc le médecin lui dit, je vais vous examiner, vous commencez à être habitué maintenant. Vous savez que dans les études cliniques, vous êtes examiné par plusieurs personnes. Et tout à l'heure, vous verrez par exemple l'interne, etc. Oui, oui, dit-il en souriant, je suis un rat de labo. Oui et non, dit le médecin, on ne peut pas vraiment dire ça comme ça. Alors le patient dit, je dis ça en plaisantant, je sais bien que vous n'aimez pas qu'on dise ça. Et le médecin lui répond, c'est pas qu'on n'aime pas ça, mais on essaye que le patient ne le ressente pas comme ça et ne le vive pas comme ça. Non, je plaisante, dit le patient. Le médecin, non, mais dans toute plaisanterie, il y a un fond de vérité, et là vous sentez un risque, C'est normal que vous ressentiez ce risque, c'est un risque qui existe. Quand on évalue les médicaments sur l'homme, que ça évolue vers le rat de laboratoire. Alors bien sûr, il y a des lois, un encadrement très lourd, mais on ne résout pas tout, bien sûr. Ce sont les hommes, avant tout, qui font la recherche. Alors effectivement, il y a un risque. Mais vous avez peut-être l'impression d'être traité comme un rat de laboratoire, lui demande-t-il. Et le patient répond « Oui, sauf que je pense qu'on me traite quand même beaucoup mieux qu'un rat de labo ». Et le médecin qui continue dit « Oui, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on considère que la recherche, c'est d'abord un acte de soin. On pense que c'est actuellement une des meilleures solutions, une des meilleures options, pardon, de soin. Et bien sûr, il y a une recherche, mais ça passe au deuxième plan. Et c'est pas comme dans la recherche sur le volontaire sain, où c'est uniquement de la recherche. Ici, vous pouvez sortir comme vous voulez, c'est toute la différence avec le rat. » Donc, du fait de la présélection très sévère des patients et de la structure inégalitaire des rapports entre investigateurs et patients, en fait, c'est très rare d'entendre ça, et je l'ai entendu qu'une fois, en 2 ans de terrain, d'entendre ce que Foucault dirait être la parésia, le courage de la vérité, cette manière qu'il a d'affronter, de dire les choses, en réalité. Et ensuite, moi, je l'ai interrogé, on a eu une discussion ensuite, et il m'a dit ceci. Il faut reconnaître, dit-il, qu'il y a forcément une part de ça, quand même. On est parti à l'inconnu sur les hommes, et quand on part à l'inconnu sur... on est parti à l'inconnu sur les animaux, et quand on part à l'inconnu sur les hommes, c'est pareil. J'aime bien les titiller un peu. Ils me répondent toujours pareil. C'est pour mon bien, et puis après, c'est la loi, et tout ce qu'on fait est légal. Et ils n'aiment vraiment pas qu'on dise ça, ils répondent tous la même chose. Alors moi, je lui demande, est-ce que vous avez posé ça à votre médecin référent ? Il dit oui. Ben, il répond la même chose. C'est un peu hypocrite, quoi. Et moi, je relance, hypocrite. Il me dit, ben ouais, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils me disent, oui, c'est ça, il y a de la recherche. Mais ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas qu'on leur dise ça. Et moi, j'aime bien les titiller pour voir ce qu'ils répondent, voir ce qu'il y a derrière. J'aime bien. Voilà. Donc, on peut interpréter cet échange... Là, on peut l'interpréter finalement de diverses manières, je pense. On peut l'interpréter comme un acte de révolte ou de rébellion de la part d'un jeune homme qui est finalement dans une situation extrêmement délicate médicalement et qui est finalement presque obligé de participer à cet essai clinique. On peut l'interpréter également comme le signe d'un un acte de désespoir ou comme quelque chose qui manifeste des motifs d'ordre psychologique, une manière de faire face, finalement, à sa situation. Mais on peut aussi l'interpréter, et c'est comme ça que j'aimerais l'interpréter, si vous le voulez bien, comme une demande de reconnaissance, à sa manière, de la part du malade, de son statut de sujet. Donc on voit bien qu'ici, il s'est constitué lui-même comme sujet de recherche, et il veut qu'on le reconnaisse comme tel. Il a son style propre pour demander cette reconnaissance de la part des médecins et qui manifeste sa part de liberté. Et donc l'idée que je développe, j'ai pas le temps de le développer plus ici, mais c'est que pour comprendre le recrutement des malades, il faut se situer finalement au point d'intersection entre deux processus qui sont très fortement analysés, mais de manière assez disjointe chez Foucault, à la fois des processus de gouvernement, donc gouvernement des individus, donc comme j'ai montré, qui s'appuient sur leur désir, au fond, qui est une manière de jouer avec la liberté, de s'appuyer sur la liberté des individus, mais également un processus aussi de subjectivation, un processus éthique par lequel les individus se produisent eux-mêmes comme sujet de recherche. Alors là, j'ai donné un exemple très fort, je pense, de production qui est un consentement qui comporte en lui-même une forte dose de résistance. Mais il y a beaucoup de... Même dans les patients les plus compliants, qui se conforment le mieux aux attentes des médecins, il y a ce travail de subjectivation sous-jacent qu'il s'agit de mettre en lumière. Merci beaucoup.